tous et à toutes. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous d'abord, mais aussi un privilège d'annoncer la parole de Dieu. C'est une double prérogative puisque non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons aussi prêcher la parole, n'est-ce pas? Nous sommes tous capables, une fois nous sommes en Christ, de pouvoir prêcher la parole, puisque lorsque nous ramenons une âme à Christ, c'est aussi la parole que nous avons annoncée. J'aimerais ce matin, avec vous, m'entretenir sur un personnage. Un personnage si important à la fois dans l'Ancien Testament, où il apparaît comme l'un des plus grands prophètes entre Moïse et Jean-Baptiste. Et aussi dans le Nouveau Testament, où son nom prestigieux revient plusieurs fois, qu'il vaut la peine pour nous ce matin de le présenter. L'idée pour moi ce matin, c'est d'utiliser ce prophète pour vous encourager, pour nous encourager à dépendre davantage de Dieu. Pourquoi ? Pour progresser, pour grandir spirituellement, en d'autres termes, afin de désirer de la nourriture solide, de passer du lait au beefsteak. Bien que son ministère couvre un laps de temps relativement court, sa vie a été si fructueuse en intervention de toute espèce qu'elle nous offre une bibliographie extrêmement riche en substance. Elle est sa vie pour tous ceux qui sentent combien est difficile le service chrétien. Et s'il y a parmi nous ce matin des chrétiens qui sont dans ce cas, ils trouveront des encouragements perspicaces à l'étude de la vie de ce prophète. Elle est aussi pour tous ceux qui se sentent seuls, seuls dans le travail de Dieu, seuls dans le ministère. Oui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont engagés en solitaire dans le travail du Seigneur. Ils sont tentés de dire comme le prophète, « Je suis resté seul. » Même s'il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi ou faibli ou plié les genoux devant Baal. Elle est aussi pour ceux dont la patience est mise à l'épreuve. Ceux qui voient que peu de résultats, oui, la patience de ce prophète, son endurance, son obéissance à Dieu et son triomphe final seront pour nous, pour eux, un grand encouragement. C'est aussi pour tous ceux qui se sentent ou qui pensent que ce qu'ils font a peu d'influence sur l'apostasie. Vous savez, 7 mauvais rois s'étaient succédés en Israël depuis Jéroboam. Et Akab et sa terrible femme Jézabel, à eux seuls, ils ont fait plus de mal que les 7 autres ensemble. La nation d'Israël était submergée par les flots de l'idolâtrie. La condition morale et spirituelle du peuple était déplorable, lamentable. Mais la vie de ce prophète va nous encourager. Pourquoi ? Comment ? À continuer, car notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Enfin, ces informations sur la vie du prophète sont aussi pour ceux qui ont faibli, comme moi, comme vous, car qui n'a pas faibli? Dans ce qui nous est rapporté de ce prophète, il y a malheureusement un incident regrettable, mais là aussi, nous y trouverons une aide précieuse, car la vie chrétienne est faite de combats, et il n'y a pas de victoire sans combat. On pourrait le comparer, ce prophète, à un géant de la foi. C'est la première impression que nous avons peut-être de lui lorsque nous lisons son histoire, sa vie. Mais derrière cette image de grand géant de la foi, il y a une autre image. C'était un homme comme nous. La Bible nous dit que c'était un homme avec la même passion que nous. Oui, c'est vrai. Nous sommes tentés de croire à un géant dans la foi, une sorte de colosse, un homme avec un cœur gros comme le mont Sinaï. Mais dans l'épître de Jacques, il nous a dit que c'était un homme de la même nature que nous, qui avait les mêmes passions que nous. Alors, sans plus tarder, je vous invite à partir à la rencontre de ce prophète. Et c'est un prophète que le frère Roland cite assez souvent. D'ailleurs, c'est son prophète à lui. Eh bien, vous pouvez bobiner avec moi dans le 17e chapitre des Rois, du premier livre des Rois, et nous allons rencontrer ce prophète. Le titre du message ce matin, c'est « Où en êtes-vous en ce début d'année 2020 ?» Après les dispositions que nous a parlé notre pasteur en début d'année, où en sommes-nous? Où sommes-nous ce matin? Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? Verset 1er du chapitre 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galab, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Près du torrent de Kérit, il lui dit « Cache-toi. » Et à Sarepta, il lui dit « Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. L'étude du premier livre des Rois au chapitre 17 nous révèle que le prophète Élie fit une grande déclaration prophétique. Ce qui poussa le Seigneur à le séparer des autres et l'envoya au torrent de Kérit. La parole de Dieu introduit ici le premier grand prophète d'Israël. Il entre en scène en plein apostasie, au plus mauvais jour de l'histoire d'Israël, quand la défection est générale et que le culte de Baal, favorisé et animé par Akab et Jézabel, est devenu le culte national. Sous ce régime d'apostasie, les serviteurs de Dieu, même de l'Éternel, sont obligés de se cacher pour sauver leur vie. Et ceux qui restent encore en vue se cachent et se taisent. Élie est donc resté en apparence seul devant cette formidable apostasie. Son nom est caractéristique. Élie signifie celui dont le Dieu est l'Éternel. Ses paroles et toute sa conduite reflètent bien son nom. Son Dieu est celui qu'Israël avait abandonné. Son témoignage est tout aussi caractéristique. Il est entièrement séparé de l'apostasie générale. Il est, comme nous, le témoin de la vérité au milieu du mal. Et sa mission ne s'accomplira jamais sans être accompagné de grâce et de délivrance. Son caractère moral est tout aussi remarquable que son caractère de témoin. Car avant tout, il se tient, il le dit lui-même, « L'Éternel, dit-il, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Où nous tenons-nous ce matin? Où sommes-nous implantés? Eh oui, Élie annonce la pensée, proclame la parole de Dieu, mais il prie. Il prie que cette pensée se réalise. Cette dépendance par la prière du prophète est la source même de sa puissance et doit être aussi la nôtre ici à Argenteuil. Tel était le triple fondement de la puissance extraordinaire d'Élie. Il se tenait devant Dieu, recevait sa parole et vivait dans sa totale dépendance. Et vous savez, la seule occasion où sa foi affaiblit, c'est lorsque justement il a négligé ces trois choses. Rappelez-vous de cet épisode où, au lieu de se tenir devant Dieu, il s'enfuit dans le désert, il oublie l'Éternel de le consulter et il s'en va selon son cœur. Mais si nous examinons un instant les voix de Dieu envers son prophète, elles ont lieu dans une certaine suite qui l'amène graduellement à un point culminant de sa mission. Dieu lui parle, il croit, Il obéit à la parole divine, puis va se réaliser une entière dépendance où au torrent de Kérit et puis à Sarepta. Élie a compris une chose que nous n'avons peut-être pas compris. Plus il dépendra de l'Éternel, plus il apprendra à connaître sa fidélité. Plus il apprendra à connaître les richesses de son amour et de sa grâce. Tout cela, frères et sœurs, est dominé par une entière séparation au mal. S'il ne nous est rien dit de sa naissance et de sa jeunesse, nous savons qu'il avait probablement des parents pieux. Il était Tishbite de Galad. Mais si nous n'avons rien de la première partie de sa vie, nous pouvons être sûrs que Dieu le façonnait en vue du jour où il allait faire son apparition sur la scène prophétique. Souvenez-vous que c'est dès le sein de sa mère que Saul de Tarse a été mis à part pour le service. Et dès lors, toute sa vie a changé, tout dans sa vie a changé, jusqu'à la haine pour les chrétiens. Et je pourrais témoigner de la même chose, et vous aussi, ici ce matin, ceux qui sont en Christ, nous pourrons témoigner de la même chose. Lorsque nous faisons une rétrospection de notre vie, nous pensons à nos années d'autrefois, au chemin par lequel nous sommes passés. Bien que ne connaissant pas Dieu, nous pouvons dire sans prétention que Dieu était à l'œuvre et que tout a servi jusqu'à aujourd'hui pour nous préparer à notre issue, à son service. Frères et sœurs, chaque expérience que nous faisons est une préparation pour le travail que Dieu nous réserve. Et avec Dieu, les moments d'attente ne sont pas des moments perdus. Pour Dieu, les 40 années de Moïse passées au désert ne sont pas moins importantes que les 40 années passées à la cour de Pharaon. Ce qui caractérise Élie encore, c'est sa séparation radicale d'avec le mal ambiant. Tout le caractère du ministère du prophète Élie se trouve résumé par ces paroles de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5, verset 11. « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les. » Frères et sœurs à Argenteuil, tout notre être tout entier, notre ministère tout entier sont dans ces paroles. Ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les. Ces paroles doivent être écrites en lettres de feu dans nos vies. Élie est aussi l'homme qui a été nourri trois fois de manière surnaturelle. Une première fois par les corbeaux, une deuxième fois par la veuve de Sarepta, et une troisième fois par l'ange, chapitre 19. Eh bien, cela nous apprend une vérité fondamentale. C'est que toutes les sphères de la vie au service de ceux qui servent Dieu, toutes ces sphères-là sont au service de nous, les chrétiens. Toutes choses, les inférieures comme les corbeaux, les égales comme la veuve de Sarepta, et les supérieures comme les anges. Oui, tout cela nous apprend ou nous réapprend une affirmation de Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'histoire du prophète gravite autour de deux ordres qu'il a reçus de la part du Seigneur. Chapitre 17, verset 3. Va et cache-toi. Va et cache-toi près du torrent. Et au chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui dit, va et présente-toi devant Akab. Voilà les deux grands pôles, les deux grands axes de sa vie. Va, cache-toi et va, montre-toi. Alors permettez-moi ce matin de présenter de la sorte le va, cache-toi. C'est l'aspect privé de son ministère. C'est aussi pour nous le département de notre vie spirituelle, où il n'y a rien de spectaculaire. C'est ce côté dont parlent les apôtres en Actes chapitre 6. Il n'est pas bon que nous abandonnions la prière. C'est ça le côté caché, c'est le va, cache-toi. Et le ministère de la parole, c'est le côté public, c'est le va, montre-toi. Oui, nous sommes amenés à faire comme Élie, à aller aussi vers les autres, à prêcher la bonne nouvelle chez nous, à côté de chez nous, mais plus loin aux extrémités de la terre. Puis-je vous poser une question? Avant de vous présenter ce matin publiquement, y a-t-il eu le premier point? Nous sommes-nous présentés secrètement devant le Seigneur? Avant le côté visible, il y a ce côté caché, où l'on se met secrètement devant Dieu, où on parle avec lui dans la préparation. Y a-t-il eu le « va, cache-toi » avant le « va, montre-toi » ? Parce que frères et sœurs, s'il n'y a pas l'un, l'autre sera fatalement inefficace. Même quand il s'agit de présenter la parole de Dieu par la louange, par les études, par l'évangélisation, par la prédication, ce sera fatalement inefficace. Alors, que faut-il faire? Il faudrait que nous apprenions à être à l'école de la dépendance de Dieu. Élie va en goûter les fruits. Élie va goûter le fruit de tout cela. Oui, car quand Israël va mourir de soif et de faim, Élie, lui, il pourra dire comme même psalmiste, « Je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Pour mieux comprendre ce cheminement du prophète de Galad à Kérit et de Kérit à Sarepta, il est important pour nous de comprendre ce que signifient les lieux vers lesquels il va se déplacer. Il est originaire de la ville de Galad, qui veut dire la montagne de témoignage. Kérit veut dire le lieu de rupture ou encore lieu de séparation. Va, cache-toi. Et Sarepta veut dire le lieu de fonte, le lieu pour faire fondre, un lieu pour raffiner, un lieu pour purifier. Et c'est là qu'il accomplira un miracle que personne n'a accompli avant lui. La résurrection du fils de la veuve. La question qui m'a sollicité dans cette préparation est celle-ci. Pourquoi Dieu a envoyé Élie au torrent de Kérit? Pourquoi il lui dit, mais va au torrent de Kérit? Il aurait pu s'arrêter là. Il dit, cache-toi. Donc nous pouvons supposer que Élie n'était pas au milieu du torrent. Élie n'était pas à la vue des autres. Va, cache-toi. Nous verrons plus loin la signification de cela. Alors j'ai trouvé trois pensées à cela. La première, c'était pour protéger des réactions qui n'allaient pas manquer de se faire, parce que, n'oubliez pas, c'est l'apostasie. Les prophètes de Baal, Akab, Jézabel. Écoutez le message du prophète. 3 années de sécheresse dans un pays qui dépendait de la pluie du ciel pour survivre. Et le message était d'autant plus terrible, frères et sœurs, qu'il était né dans la prière. Vous savez, les messages qui percutent les consciences, les messages qui bouleversent les hommes, les messages qui permettront que justement l'œuvre va avancer, ce sont ceux qui sont nés dans la prière et pas autrement. Pas autrement. Et suite à cette terrible annonce du verset premier, Dieu l'envoie au torrent de Kérit pour le couvrir de sa protection. Et savez-vous que nous sommes, nous aussi, frères et sœurs, nous devons aller à ce torrent de Kérit. Pourquoi? Parce que pour prendre la protection de notre Sauveur. Nous avons besoin de sa protection. Mais sommes-nous dépendants de lui? Sommes-nous obéissants? Élie va examiner la protection de Dieu lorsqu'il va être obéissant. Dieu lui dit d'y aller. Il ne chipote pas. Il y va. Et vous savez, nous sommes aussi exposés comme Élie à ce genre de choses. Parce que lorsque nous allons, nous sommes les porteurs de ce message de l'évangile. C'est-à-dire, nous aussi, nous nous exposons comme Élie, à des réactions violentes et à la désapprobation des princes des ténèbres. Pourquoi Jésus, en parlant à Pierre, a dit, « Satan vous a réclamé pour vous, criblé, mais j'ai prié pour vous. Pourquoi ? Afin que ta foi ne défaille point. » Alors nous aussi, oui, nous aussi, nous avons besoin de nous réfugier dans l'intercession de Jésus-Christ, qui est le torrent de Kérite, qui nous abrite et nous couvre de sa protection divine. La deuxième pensée pour laquelle Dieu l'envoie au torrent de Kérite, c'est pour le préparer à d'autres services. Dieu avait en réserve des tâches plus grandes pour son prophète. Et cela nous est illustré dans la préparation graduelle d'Élie dans les trois repas qu'il a pris. On peut dire ce matin que Élie n'est pas prêt, il n'était pas prêt à recevoir le repas de la main de la veuve avant de l'avoir reçu du bec des corbeaux, et qu'il n'était pas non plus prêt à accepter le repas de l'ange tant qu'il n'était pas passé par les deux étapes précédentes. Et ma première conclusion est celle-ci. C'est que dans les services du Seigneur, on ne brûle pas les étapes. Élie n'a pas commencé par l'ange, puis la veuve et a fini par les corbeaux. Non, c'est le sens inverse. D'abord les corbeaux, puis la veuve de Sarepta, et ensuite seulement l'ange. Il en est de même pour nous aussi dans le service du Seigneur. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Nous ne pouvons pas faire toutes sortes de choses et finalement, il n'y a rien qui se passe. Et à la fin de l'année, on se rend compte que finalement, rien n'a été fait. Tout a été entamé, mais rien n'a été fait. Apprenons à être sous la dépendance de notre Seigneur et être à l'écoute de ce qu'il nous dit. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'Élie pensait des corbeaux avant d'être nourri par ceux-ci? Sans doute pas grand-chose, pas des choses de bien. Parce que sachez qu'en tant que juif et par sa formation religieuse, les corbeaux sont considérés comme des animaux impurs. Lévitique 11-15 nous en parle. Et bien entendu, il ne lui serait jamais venu à l'esprit d'en passer un corbeau à la casserole. Je suis persuadé. Je vous invite dimanche prochain à manger un fricassé de corbeau chez moi. Vous n'allez pas venir. Vous allez trouver toutes sortes d'excuses, vous n'allez pas venir. Parce que nous avons une mauvaise image de cela. Pourtant, quelquefois aussi, il en est de même pour nous. Nous avons des idées ou des pensées ou des visions sur des gens que nous côtoyons. Comme Élie avait pour les corbeaux avant. Quelquefois, frères et sœurs, Dieu nous place dans certaines circonstances. Dieu nous place dans certaines situations où la délivrance nous vient justement de la part de ceux que nous avons un peu méprisés, un peu ignorés, pour nous faire la grâce de rentrer en nous-mêmes et nous donner une vue plus élargie sur les choses, sur les gens, mais aussi sur la vie communautaire. Tout cela pour nous permettre de mettre dans nos vies ce qui lui manquait, c'est-à-dire une note de tendresse, une note de douceur, une note d'amour. Quelqu'un a dit que Élie n'a plus regardé les corbeaux comme avant parce qu'il pensait que c'était l'oiseau le plus évangélique. C'est pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il fait un croissement, il dit quoi ? Quoi ? La troisième pensée, c'est que Dieu veut le conduire justement plus loin. Et comme avec nous aussi, lorsque nous avons pris le départ avec le Seigneur veut toujours nous conduire plus loin. Il ne veut jamais que nous stagnions. Si nous restons sous sa dépendance, si nous restons à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu nous dit, Dieu nous enverra toujours plus loin. Il le conduira vers les païens. Non seulement Élie ne regarde plus les corbeaux de même œil, mais il ne regarde plus les païens de la même façon. Voyez-vous, Élie est un prophète non seulement par sa parole, mais il l'est aussi dans sa personne et dans sa vie. La pleine réalisation de ses expériences se trouvera plus tard lorsque l'Épître aux Romains sera écrite au verset 11 du chapitre 11. L'apôtre Paul, parlant du culte d'Israël, de sa chute plus précisément, dira que par leur chute, l'Évangile est devenu accessible aux païens. Et oui, lorsque le torrent fut séché, Élie fut envoyé à Sarepta pour y être nourri par une veuve. Dieu avait deux buts lors de l'envoi d'Élie à Sarepta. Nourrir son serviteur pour le rendre dépendant et apporter par lui à la veuve un message de grâce et de paix. La parole d'Élie met en activité la foi qui dormait encore dans son cœur. Verset 15. Elle s'en alla et fit selon la parole d'Élie. Alors plutôt de faire comme nous, plutôt de faire comme les païens, de douter d'un fait, je dirais, incompréhensible pour elle, à la raison humaine, elle accepte cette impossibilité et y trouve le salut pour elle et pour son fils. Nous avons dit que Sarepta est un lieu de purification et de raffinage. Dieu envoie Élie à Sarepta pour justement lui apprendre à être entièrement dépendant de lui. C'est la raison pour laquelle il l'envoie chez cette veuve avec un enfant à charge. Imaginez les conditions de cette femme. Sans à manger, seule avec un enfant. Dieu ne l'a pas envoyée chez quelqu'un de riche. Pourquoi? Bien, c'est pour que justement Élie ne puisse pas comprendre qu'il dépendait entièrement de la satisfaction et de l'abondance du riche. Non, Dieu va l'envoyer chez quelqu'un qui n'a rien. Et il va lui montrer que là, il doit être entièrement dépendant de lui pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse lui confier d'autres tâches. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement le même processus qui se passe pour nous. Lorsque nous commençons à mener une vie de sanctification, eh bien, le processus de purification se déclenche lorsque nous mettons toute notre confiance entièrement à la dépendance de Dieu. Et pas autrement. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose pour toi, pour moi, il le fait justement quand nous n'avons rien. Lorsque nous avons tout perdu, c'est à ce moment-là qu'il nous démontre qu'il est le véritable Dieu. Alors, frères et sœurs, jeunes, si tu as des soucis, si tu as des problèmes et que cela te dépasse, arrête de te focaliser sur ton sort. Laisse ça dans les mains du Seigneur. Sois dépendant du Seigneur. Si tu as un fils, une fille compliquée, difficile, tu ne pourras pas changer les choses. Laisse ça dans les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur puisse les briser, les gêner, être toujours derrière eux, justement, pour les déranger dans leur situation. Pour que justement, un jour, qu'ils puissent se rendre compte que chez leurs parents, c'était la dépendance du Seigneur qu'ils avaient. Parce que nous prions tous pour nos enfants. Un autre fait marquant plus loin, et rappelez-vous où c'est que nous étions. Rappelons-nous où c'est que nous étions. À Galade, puis au torrent de Kérit et à Sarepta. L'autre fait marquant, c'est que pendant son séjour, l'enfant de la veuve va mourir. Quel désastre! À aucun endroit avant dans la Bible, il n'est mentionné que quelqu'un avait ressuscité une autre personne. Élie sera la première personne à ressusciter un être humain. Et pourtant, il nous est dit dans l'épître de Jacques que Élie était un homme comme nous. Ce n'est pas que nous allons ressusciter des gens. Mais c'est que si nous avons la foi, si nous dépendons de notre Seigneur, nous pouvons déplacer des montagnes. Nous pouvons faire des exploits. Dieu va accepter la mort de cet enfant afin qu'il y ait quoi? Afin qu'il y ait un échange de foi entre Élie et la veuve. Et elle dira au verset 24 de ce même chapitre 17, elle dira, regardez avec moi, Je reconnais. Comment? Quand? Non. Maintenant. Je reconnais maintenant. Oui, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors si ça, ce n'est pas un acte de foi véritable et de repentance, j'aimerais qu'on m'apprenne autre chose. Et enfin, la quatrième pensée pour laquelle Dieu va l'envoyer au torrent de Kérite. Et là, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. C'est que dans les temps d'apostasie, Dieu va faire quoi? Il va retirer ses prophètes. Les prophètes ont toujours été envoyés pour ramener le peuple de Dieu dans des temps d'égarement. Seulement dans des temps d'égarement. Mais lorsque, quand l'égarement tourne à l'apostasie, il se passe ce que Asaph dit dans le psaume 74. Regardez. Psaume 74, verset 7. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané le temple, la demeure de ton nom. Ils disent dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Et ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Ça, c'est l'apostasie. Et à présent, écoutez, nous ne voyons plus de signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Croyez-moi, frères et sœurs, le jour où Dieu retirera ses serviteurs parmi nous, il enlèvera aussi sa parole. Et nous risquons fort de nous retrouver avec une Bible sans substance spirituelle. Quand bien même nous aurons la meilleure des versions. Que s'est-il passé à Kérite? Que s'est-il passé à Kérite? Dieu lui dit de partir, d'aller se cacher. Mais le torrent est vaste. Il va se cacher. Mais il ne se cachera pas n'importe où. Dieu ne l'envoie pas n'importe où. Dieu l'envoie au torrent de Kérite, de se cacher au torrent de Kérite, mais un endroit bien précis. Là, au cœur même de sa volonté. Où sommes-nous? Où sommes-nous ce matin? Le Seigneur dit à Élie, va, cache-toi au torrent de Kérite. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pourtant, Dieu a été fidèle dans ses promesses. Parce que Élie a eu une foi obéissante dans les promesses de Dieu. Au torrent de Kérite, tout va graviter autour d'une courte phrase et un tout petit mot. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Là. Ce matin, sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons en 2019, en 2020? Est-ce que nous sommes au même endroit qu'en 2020? Parce que si c'est le cas, il y a un problème. Vous savez, je n'ai pas demandé grand-chose au Seigneur pour 2020. Je lui ai demandé justement d'être dépendant de lui. D'être là où il veut que je sois. Pas à ma place dans l'église, pas à ma place au travail. Non, je suis en retraite. Pas à ma place ailleurs, mais là où il veut que je sois. Ça peut être aussi le pasteur qui vous demande de faire quelque chose là, parce qu'il a une vision, parce que Dieu lui a montré que là, tu peux faire quelque chose de précis. Va, cache-toi au torrent de Kérite. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Vous savez, Dieu n'a pas demandé à Élie d'aller n'importe où, mais là où Dieu veut qu'il soit. Et c'est la grande leçon pour nous ce matin. C'est que nous devons apprendre, lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, que nous avons besoin de ses richesses avec gloire et qu'il pourvoit nos besoins. C'est lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, qu'il dresse devant nos adversaires une table et que nous pouvons dire comme le psalmiste, je ne manquerai de rien. Et quand Élie fut là, qu'il devrait être, il fut au bénéfice des provisions divines. Et quand les corbeaux arrivèrent, Élie était en place pour les recevoir. Deux fois par jour, le matin et le soir, dimanche compris, livraison à domicile, franco de port. Quand Élie se levait le matin, le petit déjeuner lui arrivait tout préparé par la voie des airs. La création du premier pont aérien était créée. Frères et sœurs, sommes-nous là, au centre de la volonté de Dieu? La source d'approvisionnement, c'est Dieu. Les agents d'approvisionnement, ce sont les corbeaux. La régularité de l'approvisionnement, deux fois par jour. La variété de l'approvisionnement, de l'eau, du torrent, du pain et de la viande. Et oui, la viande, deux fois par jour, le matin et le soir. Je me rappelle quand mes parents, je ne suis pas très vieux, mais mes grands-parents mangeaient la viande une fois par semaine. Une fois par semaine. Pas Élie. Élie, lui, il avait de la viande deux fois par jour. Il avait le meilleur cuisinier du monde. La livraison à domicile le plus rapide. Le livreur le plus rapide. Parce qu'il était là, au centre de la volonté de Dieu. Pizza Hut, Cdiscount, ils n'ont rien inventé. Ah oui, mais ça valait mieux que les 100 autres prophètes dont parle le chapitre 18 au verset 13. Parce que eux, ils étaient au pain sec et à l'eau. Voyez-vous, c'est parce que Élie était au centre de la volonté de Dieu qu'il recevait un régime complet. Les autres étaient au pain sec et à l'eau. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient à mi-chemin dans leur témoignage. Un pied en dedans et un pied en dehors. Frères et sœurs, ou bien nous sommes là au centre de la pensée de Dieu, de sa volonté, ou bien nous sommes un peu éloignés, légèrement excentrés, rétrogrades, ou pire encore, nous sommes carrément en dehors du centre. Et vous savez, il n'y a que trois approches possibles aux provisions de Dieu. Il y a ceux qui n'y ont pas part, ce sont ceux qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Il y a ceux pour qui ce régime, ces provisions divines ne sont que du pain sec et de l'eau. Ce sont ceux qui sont au centre de la volonté de Dieu, mais ils n'entrent pas pleinement dans le royaume, ils n'entrent pas pleinement dans la paix, pas pleinement dans la joie, pas pleinement dans la justice. Ils ne vivent pas leur vie chrétienne pleinement. Certes, ils viennent à l'église occasionnellement, mais la Bible, la vie chrétienne, le service chrétien pour eux, c'est un grand couvert avec un repas maigre, sans calories. Alors on s'écrie, c'est fade, le culte est fade, la vie chrétienne est fade, Jésus est fade et on devient comme les Israélites dans le désert qui appelaient la manne de Dieu, cette misérable nourriture. Alors que fait-on? Que fait-on? On fait comme eux. Eh bien, on trouve que cette vie chrétienne manque d'assaisonnement, de piment, de crudité. Et comme eux, on se met à rêver aux poireaux, aux oignons, aux ailes et aux concombres du pays d'Égypte pour finalement assaisonner la Bible et le culte. La vie chrétienne avec les artifices du monde. Frères et sœurs, quand la Bible n'est plus suffisante pour nous, quand Jésus ne suffit plus, quand l'Église ne nous suffit plus, quand nous venons sans but, sans conviction, posons-nous la vraie et véritable question, à savoir, est-ce que nous n'aurions pas perdu notre premier amour pour le Seigneur? Cette période où nous étions tout feu, tout flamme, où rien ne pouvait nous arrêter pour servir le Seigneur. Regardez avec moi Apocalypse. Chapitre 2. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé tous ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce n'est pas tout ce que tu as fait. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis, il y a ceux pour qui cette provision divine, c'est un repas complet. Un repas abondant, régulier, varié, suffisant, rempli de vitamines spirituelles, un goût de plénitude. Comme dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table. Il n'est pas dit avec mes adversaires, mais en face de mes adversaires. Frères et sœurs d'Argenteuil, nous avons tous droit au meilleur régime de Dieu. Aucun d'entre nous n'est dans l'obligation de s'en tenir au pain sec et à l'eau. Nous avons tous le même Seigneur. Nous avons la même Bible. Nous avons le même Saint-Esprit. Et nous pouvons tous prétendre aux meilleures provisions divines de notre Seigneur. À ce qu'il y a de plus excellent dans le royaume de Dieu, à condition d'être obéissant et de rester dépendant au Seigneur. Vous savez, on ne pourra pas tous se tenir derrière l'estrade, c'est vrai. Je ne pourrai pas vous parler tous les jours de la même manière. Je n'ai pas l'envergure mentale pour cela, suffisante pour le faire. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que tout ici, dans le secret de notre vie cachée, comme Élie au torrent de Kérit, la Bible, la vie chrétienne, la personne de Christ peuvent avoir un goût de plénitude pour nous. Il nous faut simplement être là où Dieu veut que nous soyons. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Imaginez un instant qu'Élie n'était pas là où Dieu voulait. Ah oui, ben il aurait dit, ah ben Dieu ne tient pas ses promesses. Comme nous disons aussi quelquefois. Lorsque Dieu ne répond pas à nos attentes. Oui, mais le Seigneur m'a oublié. Eh bien non, c'est parce que justement nous ne sommes pas là où le Seigneur voulait que nous soyons. Il y a des vies chrétiennes, frères et sœurs, déficientes. Il y a des vies chrétiennes rachitiques. Il y a des vies chrétiennes sans élan, sans dynamisme, sans progression, sans croissance. Il y a des chrétiens qui ne sont pas conquérants. Mais la raison est très simple. C'est parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Alors, pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, j'ai envie d'être là où tu veux que je sois. Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? Posons-nous cette question aujourd'hui. Nous sommes en tout début d'année. Est-ce que nos jeunes, est-ce que nos femmes, est-ce que nos maris, est-ce que nos enfants prennent conscience qu'ils ne viennent pas à l'église pour une personne, qu'ils ne viennent pas à l'église parce qu'il s'est passé quelque chose, mais que je viens à l'église parce que c'est là Dieu veut que je sois pour se mettre à son service. Il faudrait que nous puissions arrêter de nous focaliser sur ce que l'autre va dire, sur ce que l'autre va faire ou ce qu'on m'a fait. Vous savez, si je devrais m'arrêter à cela, je crois que j'aurais abandonné le Seigneur. Et beaucoup d'entre vous aussi. C'est parce que justement, si nous n'avons pas abandonné, c'est parce que nous sommes restés obéissants et dépendants du Seigneur. Alors, allons-nous être dépendants de notre Seigneur? Que Dieu vous bénisse.